Garçon.
La grande vie.
Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez plus, fleurs. Qu'est-ce que vous voulez plus?
C'est au flot.
Hein? Non, rien. Voilà. Vous voulez, c'est vrai, vous voulez pas voir quelque chose, un jus de fruits, un truc comme ça?
On se ferait bien dans le
bleu.
Si,
oui,
dans, dans le paysage. Dans le jardin.
Donc vous indiquez parfois le costume de réalisateur et d'animateur. C'est pas trop difficile de passer de l'un à l'autre ou
Non, je ne suis plus animateur. J'ai plusieurs costumes. J'invente l'histoire, j'écris les dialogues, je dessine les personnages principaux, je fais le storyboard, la bande dessinée qui représente tout le film avant que le film existe, pour que les gens sachent ce que je veux. Et je suis réalisateur, c'est-à-dire que je dis à une soixantaine de personnes ce qu'il faut faire.
C'est pas trop impressionnant de justement dire autant de personnes ce qu'ils doivent faire, d'être toujours derrière?
Non, tout vient de l'intérieur et ça vient petit à petit naturellement. Et je réalise pas qu'il y a tant de monde autour de moi. Non, c'est pas impressionnant. C'est pas impressionnant, on se rend pas compte. On se rend pas compte non plus du temps qu'on met. Hein, j'ai mis 6 ans à faire le film, mais je fais mon travail, je vis et je ne compte pas.
6 ans pour faire le film, c'est...
Oui, c'est quand même un peu trop. Parce qu'en plus, je sais très bien ce que je veux et au bout d'un an, pour moi, le film est terminé, mais il y a encore 5 ans de travail. À partir du moment où j'ai terminé le storyboard ou animatique, on peut dire aussi animatique en français, à partir du moment où j'ai... Non, scénar-image pour dire storyboard, le scénario en image. Et ensuite, ce scénario en image, on le filme d'image fixe en image fixe en entendant les paroles. Ça s'appelle animatique. Et là, pour moi, j'ai l'impression d'avoir terminé le film quand je suis arrivé à ça, où tout est décidé. C'est aussi du montage. On raccourcit, on allonge, on rajoute un plan qui manque. Et la suite, c'est quasiment de l'exécution, mais ça va durer encore plusieurs années.
On sait très bien que ça représente énormément de travail, mais pas à ce point-là.
C'est... Un des avantages, c'est que ça devient une œuvre extrêmement relue et pensée. Mm-hmm. C'est pas du tout un petit truc fait en 10 minutes. Chaque plan, chacun des 1300 plans du film est pesé et justifié.
Votre enfance en Guinée, est-ce qu'elle vous a influencé vos films?
Je pense qu'elle a influencé ma vie. J'ai eu la chance, dès l'enfance, de connaître deux univers, l'Afrique noire et la Côte d'Azur, parce qu'on revenait tous les ans pour les grandes vacances en France. D'une part, j'ai été aussi élevé dans un endroit où il y avait plusieurs religions, catholiques, protestants, musulmans, animistes, et c'était normal. Et je serais incapable de faire une guerre de religion.
Tant mieux.
J'ai aussi des souvenirs de beauté. J'étais tout à fait conscient de la beauté autour de moi, la beauté des gens et la beauté des mises des dames.
Vous utilisez souvent des techniques simples, alors que d'autres réalisateurs, justement, utilisent en animation des techniques assez complexes.
Enfin, ce qu'on prend pour mon style, c'est le manque d'argent, en fait. J'ai eu, jusqu'à Kirikou, beaucoup de mal à trouver de l'argent pour faire ce que je voulais. Et quand j'en trouvais peu. Et je prenais les techniques les moins chères et les plus efficaces. Mais c'est venu par le manque d'argent. Mais rien de ce que j'ai fait, je le renie. Et ce manque d'argent n'est pas complet. Si le manque d'argent est complet, on ne fait rien. C'est ça qui est terrible avec le cinéma. Ce peu d'argent, finalement, me plaît. Et j'ai fait... La technique la meilleure marché, c'est la silhouette, qui est sortie bien après que je l'ai fait, sous le titre de Prince et Princesse. C'est vraiment commode à faire, pas cher. Et maintenant que j'ai accès à des budgets conséquents, j'ai l'intention d'en faire encore. Parce que c'est beau. Cette simplicité obligée vous donne une pureté, vous rend très compréhensible et ça me plaît.
Vous avez aussi réalisé un clip. C'est un travail totalement différent.
Pas vraiment. C'est une extrême bonne surprise. Björk est venu à moi et m'a demandé que je lui fasse son prochain clip pour l'album qui va sortir. Le titre, c'est Volta, de l'album. Et la chanson qu'elle met en avant et que j'ai mise en image, c'est Earth Intruders. C'était d'abord étrange que Björk vienne à moi, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et d'autre part, étrange qu'elle me propose cette chanson, parce que c'est une chanson un peu chaotique et un peu violente. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle venait à moi avec ça, alors que je vise l'inverse, apporter la paix. Et elle a un peu hésité, puis elle m'a dit « c'est probablement pour ça ». Et sous-entendu, débrouille-toi. Parce qu'elle ne savait pas du tout quoi faire. Elle ne m'a donné aucune indication et elle n'a pas surveillé ce que je faisais. J'étais totalement libre. C'est une artiste qui fait confiance à un artiste. Alors que dans ce milieu, c'est colossal. C'est une industrie mondiale avec toutes sortes de gens, avec de l'autorité, du pouvoir, de l'inquiétude, de l'argent, qui vous dit ce qu'il faut faire. Mmh. Et elle, rien. J'ai fait ce que j'ai voulu. Et comme il y avait peu de temps, j'ai fait beaucoup de vues réelles dans ces 4 minutes. Ce qui fait que j'ai aussi essayé autre chose, de la vue réelle. Tout ça avec de l'animation, des effets spéciaux, de la 3D. J'ai fait, comme elle, une chose un peu instinctive, assez riche, mais qui quand même conduit à l'apaisement.
Vous ne pouvez pas aller à l'inverse de ce que vous êtes, de toute façon.
Mais Björk est très contente.
C'est le principal. Dans vos films, on vous sent souvent engagé. Vous avez des messages à faire passer?
Oui.
Hormis la
je suis un... Bah, c'est déjà pas mal, le message de la paix. Je suis un être humain, je parle à des êtres humains, sur les êtres humains. Je pense que si on n'a rien à dire, on ne peut pas faire un bon film. Et j'ai d'abord des choses à dire avant de faire un film. C'est dans ce sens qu'il faut aller. Il ne faut pas vouloir faire un film et se dire qu'est-ce que je vais mettre dedans. Il faut d'abord vivre intensément, ressentir les choses intensément, avoir quelque chose à transmettre, et ensuite, par-dessus le marché, on fait un film. Bon, avec Azur et Asmar, c'est... d'habitude, on fait des histoires d'amour, là, c'est une histoire d'amitié. Et d'amitié, pas seulement entre Azur et Asmar, mais avec d'autres personnes. Non, à peu près, il y a 7 ou 8 personnes. C'est l'amitié entre des gens très différents, mais qui sont amis parce que c'est naturel. Ça, c'est un mouvement naturel.
D'accord. Est-ce que des fois vos films sont un peu autobiographiques?
Toujours. j'utilise ce matériau.
Ouais.
Et en général, je suis plusieurs personnages dans Kirikou. Je suis d'abord Kirikou, c'est tout à fait moi en mieux. Je suis aussi la mère, discrète mais toujours présente et généreuse. Je suis aussi le grand-père, assez paisible, ayant appris 2 ou 3 choses de la vie. Je ne suis pas Karaba parce que je ne me venge pas. Mais peut-être que j'ai moins souffert que Karaba. Et pour Azur et Asmar, je suis Azur, un peu Génane, un peu le sage Yadoa, mais je ne suis pas Asmar qui a pas réglé tous ses comptes, mais qui a fini par les régler. Je pense que j'ai réglé depuis longtemps tous mes comptes, et sans accuser les innocents. Je suis aussi crapaud. J'oubliais. Non, je l'ai été. Je ne le suis plus du tout. Il n'y a plus un atome de crapaud en moi. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. On trouve un peu tout dans sa propre vie. Et si je suis aujourd'hui plutôt azur, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend les autres, qui apprend la langue de l'autre, qui se tient bien. J'ai été crapaud justement au retour d'Afrique. Et sans le savoir, parce que j'étais complètement français, personne ne pouvait imaginer que j'étais un immigré hostile, mais je l'ai été, parce que je me suis trouvé transporté d'un seul coup de l'été éternel à l'ouest de la France, gris et mouillé. Et ça, c'est vrai, c'est gris et mouillé, et ça ne m'a pas plu. Et probablement, il y avait toutes sortes de codes que je ne connaissais pas, parce que je suis passé aussi d'une petite école communale sympathique à un immense lycée-usine, et je me faisais punir, et je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais le plus innocent. Et comme j'étais malheureux, bon, par exemple, une chose toute simple, à Conakry, je ne jouais pas au football, et quand je suis arrivé à Angers, tout le monde jouait au football, il y avait toutes les semaines une séance de plein air où on jouait au football, et j'étais ridicule. Et je savais pas jouer au football, et je faisais le clown comme si je voulais pas jouer au football. J'aurais bien aimé jouer. Et c'était toujours moi qu'on choisissait en dernier, quand on formait les équipes. Donc ça, c'est un symbole. Donc j'étais malheureux. Donc j'ai craché et sur le football et sur l'Anjou. Et pendant des années. Et je m'en suis aperçu une vie après. Et donc j'en ai fait crapaud. C'est moi à 12-15 ans. Et puis ensuite, ça a complètement disparu. Et c'est aussi plein de gens que je vois autour de moi, des immigrés qui se tiennent mal, et oui. qui s'empoisonnent la vie, et qui empoisonnent la vie des autres. Voilà, donc je suis aussi crapaud, j'ai honte, mais c'est comme ça. Mais comme j'ai été un immigré imbécile, j'ai le droit de parler des immigrés imbéciles.
On vous sollicite très souvent, mais pas trop votre équipe, c'est vrai ou pas ?
C'est vrai. C'est très dommage parce que je suis entouré de gens extraordinaires, sans lesquels le film n'existerait pas, qui ont des choses à dire, qui savent des choses, qui savent aussi des choses différentes de ce que je sais. Voilà, c'est le problème. C'est toujours moi qu'on invite et pas les autres. Je dis mais invitez les autres et... Non, on est dans le star system. Et je pousse les écoles à inviter mes collaborateurs et pas nécessairement moi, parce que là, je n'ai plus le temps. J'ai un emploi du temps délirant. Ça fait des années que non seulement j'ai pas eu de congé, mais pas de week-end. J'ai toujours des choses à faire. J'ai des sollicitations qui viennent de tous les côtés. Je fais aussi... beaucoup de choses en même temps. Il y a des choses qui passent et je me dis il faut que je le fasse et je le fais. Là, par exemple, cette vidéo pour Björk qu'il a fallu faire tout à fait cessante, ben, je voulais pas rater ça. Il fallait que je le fasse, j'avais pas le temps et je l'ai quand même fait. On est en train de préparer une comédie musicale sur Kiriko et la sorcière qui va sortir en octobre. Au Casino de Paris. C'est dirigé par Wayne McGregor, qui est un jeune chorégraphe et metteur en scène surdoué britannique, qui vient d'avoir un triomphe à la Scala de Milan. Maintenant, il va avoir un triomphe, et moi aussi, au Casino de Paris. Donc ça aussi, il ne faut pas le louper, parce qu'en plus, ça, pour moi, ça n'est pas superficiel du tout, c'est pas un droit dérivé. C'est montrer la splendeur noire sur scène en vrai.
C'est déjà extraordinaire.
Oui. Voilà, donc c'est des développements qu'il ne faut pas rater. Et puis quand un distributeur qui va distribuer Azur et Asmar me demande de venir dans son pays, je dois y aller. Parce que si j'y vais, les journalistes viennent. Si je n'y suis pas, ils en parlent ou n'en parlent pas.
Oui, c'est même plus dommage.
Donc je fais le tour du monde, mais à une vitesse de dératé, ce qui est dommage. Donc là, je viens de Toronto et Stockholm. Stockholm, j'ai passé que 36 heures. Je suis à Auch, j'y reste aussi 36 heures. Je vais, et tout de suite, après, dès que j'aurai élu un président ou une présidente, je vais à Londres, puis à Riga, puis je reviens à Londres pour essayer d'achever l'adaptation anglaise de Azur et Asmar. Puis je vais faire un tour du Maroc, parce que ça m'intéresse de montrer ce film qui est pas mal marocain, au marocain. Et puis après, je vais au Japon, parce que ça va sortir sous une étiquette prestigieuse, les studios Ghibli, qui aiment mon film. Ghibli, c'est les studios de Takahata et de Miyazaki. Et c'est M. Takahata lui-même qui se charge du doublage, diriger le doublage. C'est ce qui est extraordinaire. C'est pas un technicien, c'est un auteur qui transforme mon film en film japonais. Et il va y avoir aussi une exposition dans leur parc, le parc Ghibli, qui a un succès énorme. Il faut prendre les billets plusieurs mois à l'avance. Donc il va y avoir un défilé ininterrompu devant l'exposition Azur et Asmar. Donc je dois absolument y aller. Bon, ça c'est épuisant, ce genre de voyage, ce genre de changement de fuseau horaire. Voilà, mais c'est une belle vie.
Vous savez en combien de langues c'est pour l'instant?
Je pense que Kirikou parle couramment une trentaine de langues et Azur et Asmar, ça va être la même chose. Avec une chose étrange en plus, c'est que tous les gens, toutes ces versions sont bilingues, leur langue plus l'arabe. Et donc je suis en train de faire un film bilingue japonais-arabe. Ce qui est, c'est une première. Et il y aura des comédiens qui joueront le rôle de bilingue japonais-arabe.
C'est peut-être curieux quand même. Et depuis justement Kirikou, le film d'animation a pris beaucoup d'essor.
C'est étonnant, Kirikou et la sorcière a été un déclic. Il y a avant et après, bon, dans ma vie c'est évident, il y a avant et après Kirikou, mais dans la vie de l'animation française aussi. Avant Kirikou, on faisait un long métrage de loin en loin, dont on entendait peu parler en général. Et après Kirikou, on fait plusieurs longs métrages par an. Ouais. Ça, il y a eu un basculement. Les gens ont réalisé qu'on pouvait très bien faire un film de long métrage d'animation en France et ne pas faire faillite.
Est-ce que par rapport à la censure, on peut nous lire de mots?
Ouais, alors là, j'ai plusieurs choses. Il y a d'une part, bon, Kirikou et la sorcière, ça a été vraiment refusé par la grande distribution américaine et anglaise parce que les seins nus les fait paniquer. Et les seins font plus paniquer que le zizi de Kirikou. Pourtant, c'est quand même plus sexuel le zizi que le sein. Mais enfin, je pensais avec Azur et Asmar n'avoir aucun problème. Mais non, on considère la scène d'ouverture comme un défi français à l'Amérique, disant « j'ai pas envie que vous me distribuiez », alors que je ne pensais pas à ça du tout. Mais ça commence par une jolie scène de tété. Mais on voit des seins, donc c'est pas bien. Pour l'instant, on a beaucoup de mal à sortir aux États-Unis. On va quand même sortir en Grande-Bretagne, mais on a mis un peu de temps, mais on va sortir en Grande-Bretagne. Mais Singapour, qui est encore un peu sous le règne de la reine Victoria, n'a pas donné une classification tout public pour le film à cause d'une scène de nu. C'est le mot qu'ils utilisent, scène de nu. Et une troisième chose très récente et extrêmement choquante, c'est la maladie américaine d'avoir peur des seins, d'avoir peur du corps, ce qui fait des pervers sexuels à coup sûr, arrive en Europe. Il y a une société qui fait des jeux vidéo sur mes films depuis Kirikou. Ils y ont cru avant que ça ait du succès. C'est une société qui s'appelle Watt et qui fait des choses qui respectent et mes films et les enfants, et qui a fait un petit jeu basé encore une fois sur Kirikou pour les tout-petits. Et une commission européenne de classification des jeux vidéo l'a interdit au moins de 7 ans à cause de la nudité. Et ça, c'est absolument paniquant que ça arrive en Europe. Et il faut en parler, il ne faut pas qu'on se mette à faire des sottises comme ça. Alors, ceux qui ont fait le jeu ont obtenu, bon, ils ont discuté, ils ont expliqué ce que c'était, à quel point ça n'avait pas traumatisé les enfants de voir des dames dans un village africain habillées normalement, parce qu'elles ne sont pas déshabillées, elles sont habillées normalement. Et des petits-enfants tout nus, parce que quand on est tout petit, on est tout nu. Quand on naît, on ne naît pas avec une culotte. Et Kirikou est un nouveau-né. Alors, la commission a senti le ridicule et a enlevé la cause nudité. Mais pour ne pas perdre la face, ils ont gardé l'interdiction au moins de 7 ans à cause de violence ou d'angoisse. Voilà, donc il y a ces sottises, dès qu'on parle d'œuvres pour enfants, qui sont en train de s'implanter ici. Et c'est bien d'en parler et de résister.
Tout à fait, oui.
Parce que cette classification a une justification, mais il ne faut pas, dès qu'on voit un sein, devenir hystérique.
Ben,
et il faut bien sentir que c'est aussi notre civilisation d'avoir un corps. Notre civilisation, c'est aussi les gréco-romains. Et les Grecs ont fait des merveilles à partir du corps. Et c'est jamais une chose sale. Et c'est revenu avec la Renaissance. La Renaissance, c'est la civilisation européenne. Et on célèbre aussi le corps. Et puis, nos jardins publics, on ne va pas se mettre à détruire toutes les statues du jardin public. Et là, il ne faut pas perdre la tête et rester équilibré, sain.
Hier, par exemple, vous avez fait une démonstration devant les enfants de ce que vous faisiez. C'est quand même extraordinaire ce que vous faites, hein, ce que vous arrivez à le faire.
Et ça, c'était l'animation sans argent, ou avec très peu d'argent. Et c'est extraordinaire, c'est de la magie. Avec 3 bouts de papier, on arrive à vous faire rire ou pleurer. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et hier ça m'amusait de le refaire parce que ça fait des années que je ne l'ai pas fait et puis c'est revenu très bien et puis et les gens voient à quel point cette sorcellerie est simple. Mais c'est vraiment de l'alchimie, avec rien du tout on fait de l'or, avec 3 bouts de papier noir on fait vibrer les gens. Et ça m'amuse de montrer comment on fait. D'une part c'est un énorme travail, mais d'autre part c'est pas si compliqué que ça.
Vous êtes un excellent pédagogue.
On vous remercie. Mais merci de venir me parler dans un petit jardin où on entend les petits oiseaux. Parce que il faut parler des choses, sinon le public ne vient pas. Le cinéma est très fragile.